Soir Week-end, 18h, 20h,
Pierre de Villeneuve.
On en attendait 40 000 dans tout le pays. Ils ont bravé la pluie, le froid. C'était la journée des emmerdeurs en réponse à la sémantique du président Macron. 6 cortèges à Paris avec pour ambiance à peu près ça. Macron en temps merde, des manifs couvertes par les reporters d'Europe 1. Bonsoir Wilfried de Villers.
Bonsoir.
Pour rentrer tout juste du rassemblement conduit par Laurent Philippot, question, quand on est reporter et quand on couvre ce genre d'événement, est-ce qu'on se prémunit à l'avance? Est-ce qu'on se dit ça va être chaud, donc je prends mes dispositions? Est-ce que...
Dans ces manifestations, oui, on fait toujours un petit peu attention parce qu'on se dit, il peut quand même se passer des violences, on peut être pris à partie, c'est déjà arrivé et malheureusement, ça arrive. Moi, aujourd'hui... Il ne s'est rien passé de spécial, mais on a quand même ça en tête. On se dit ça peut arriver. Donc
et
on
du
fait
coup,
attention.
Est-ce que, par exemple, vous arrivez avec votre micro Europe 1, tout bleu, avec le logo Europe 1?
C'est ce que j'allais vous dire. Moi, je l'ai un peu recouvert avec une sorte de duct tape, là, les scotch noirs, pour passer, on va dire, un peu incognito, pour pas que ce soit directement qu'on voit le nom du média pour lequel je travaille. Ça aurait pu être une autre radio, c'est un peu la même logique tout le temps. On se dit que voilà, il faut un peu faire attention, surtout qu'on sait que dans ces manifestations-là, les journalistes ne sont pas toujours bienvenus. Donc voilà, on prend nos précautions, mais aujourd'hui, pour moi, tout s'est bien passé en tout cas.
En tout cas, vous ne tentez pas d'expliquer les choses, c'est-à-dire que vous rentrez et vous ne rentrez pas dans un dialogue qui pourrait évidemment envenimer les choses.
Non.
Quand ça vient pas de vous.
Pas du tout, mais après, ça m'arrive de me faire un peu insulter, ou en tout cas, là, j'ai eu quelques réflexions. Ce n'est pas vraiment des insultes, mais on se moque un peu, on me dit « change de métier » ou « tu travailles pour un grand média, c'est n'importe quoi ». Voilà, moi, j'ai eu ce genre de réflexion aujourd'hui. Mais pas d'agressivité du tout.
Merci beaucoup Wilfried de Villers. Je vous posais la question parce que ce matin, parmi les équipes d'Europe 1, il y a une reporter qui est partie sur un autre cortège qui était autrement plus violent que celui que vient de nous décrire Wilfried de Villers. La plupart des journalistes, m'a-t-elle dit, mettaient des bonnettes neutres, effectivement, des micros neutres. Il y a des équipes de journalistes qui viennent avec des gardes du corps. Il y a une personne qui lui a dit « Ah bon, mais vous n'avez pas peur d'être là? Vous n'avez pas peur de vous faire casser la figure ?» On lui demande ça. Il y a vraiment, on est sur le mode de l'intimidation. C'était un cortège où il y avait des antivax, mais aussi des gilets jaunes. Cette reporter a dû s'isoler auprès des CRS pour faire son direct. Voilà, je tenais ce soir à m'insurger contre ce genre d'attitude. Voilà, je vous le dis, je ne prends pas souvent la parole comme ça, mais en France, en 2022, faire son métier de journaliste, être intimidé, avoir peur d'exercer son métier, eh bien, c'est inadmissible. Voilà, c'est dit. Les antivax dans la rue, chers amis, en réponse à Emmanuel Macron, est-ce qu'il fallait s'y attendre? Est-ce que le président de la République l'avait prévu? Comment, dans la majorité présidentielle, justement, et Takila, on avait vu les choses arriver?
Je rejoins ce que vous disiez à l'instant, Pierre. C'est totalement inacceptable d'avoir des journalistes aujourd'hui qui ont peur de faire leur métier
dans ces manifestations.
Merci je leur témoigne toute ma solidarité. Moi, je voudrais juste, avant de répondre à votre question, rappeler deux chiffres. Hier, à peu près plus de 300 Français morts de la Covid et plus de 300 000 Français positifs contaminés par la Covid. On voit bien que c'est une course de vitesse, que l'épidémie, elle flambe, qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix en fait. On n'a qu'une seule solution et donc on assume totalement notre stratégie qui est de faire peser la contrainte sur les non-vaccinés. On a mis en place le pass sanitaire, on a fait que les tests soient payants et demain, ça sera le pass vaccinal. Le président de la République, il a parlé clairement,
clairement, sur le
vaccin.
Oui.
Et je crois qu'on l'assume totalement. Mais bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui.
Il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser
de
cette sémantique-là.
90% des Français sont vaccinés. C'est une minorité dans ce pays qui met en péril notre pays et qui aussi fait peser le risque d'un reconfinement aujourd'hui. Donc oui, je pense qu'il faut dire les choses comme on les pense, comme beaucoup, beaucoup de Français le pensent. Et puis, je vais vous dire quelque chose, c'est une stratégie...
Il n'y a pas un langage présidentiel.
Moi, je ne le crois pas. Je vais vous dire, c'est une stratégie qui a fonctionné. Depuis lundi, il y a à peu près 230 000 Français qui ont fait le choix de la vaccination, qui ont fait une première injection.
Mais vous pensez vraiment que c'est l'article du Parisien qui a déclenché ça?
Non, mais en tout cas, c'est effectivement cette stratégie que nous menons. Comme je le disais, elle est globale. Elle est globale et nous assumons totalement aujourd'hui de faire peser les contraintes sur les non-vaccinés. Et encore une fois, moi je veux bien qu'on continue à convaincre. Je le fais sur le marché de Courbevoie, je le faisais encore ce matin. Il y a encore des indécis, donc continuons à le faire. Mais il y a cette démarche aussi du gouvernement d'aller vers...
Mais vous n'êtes pas allé sur le marché de Courbevoie en disant « je vous emmerde ». Vous n'êtes pas vacciné, je vous emmerde.
Mais peu importe les propos à tenir, et encore
question,
une fois,
est-ce que
Pierre, vous le savez, le président de la République...
Est-ce que vous êtes allé sur le marché de Courbevoie en disant « vous êtes non vacciné,
Pierre,
je vous emmerde ».
Permettez-moi de,
j'ai
de
très
rappeler,
envie de vous emmerder.
Permettez-moi de rappeler le contexte dans lequel ça s'est fait, ces propos. Vous le savez, c'était une interview.
Oui.
Le président de la République répondait à une soignante qui n'en peut plus parce que son...
Oui.
Son service en réanimation
est saturé,
c'est saturé voilà. Et c'est une pandémie non vaccinée à l'hôpital.
Et rappelons-le, 80% des gens qui arrivent en réanimation sont non vaccinés.
Et il reprenait une phrase
complète.
De Pompidou. Mmh. Et il a raison.
Ah non, ne mettez pas Pompidou.
Non, mais il a raison de parler clair, le président de la République. Je pense que là-dessus, il faut avancer. On n'a pas d'autre stratégie de la vaccination. Voilà.
Marie-Virginie Klein, justement sur le choix de la sémantique, vous qui êtes quand même une experte en communication, quelle retombée la semaine s'est écoulée avec effectivement les conséquences de cette phrase employée ?
Alors il y a beaucoup de conséquences, énormément de choses à dire sur cette sémantique. Premièrement, je pense que sans faire de mauvais jeu de mots, Macron a reboosté un petit peu les anti-vax juste avant la manifestation de cet après-midi. C'est-à-dire que on voyait bien que le mouvement était en train de s'effilocher, que ça baissait un petit peu. Et là, les commandes de bus de province vers Paris ont commencé à tenir plus fort, etc. Ça, à mon avis, quand même, cette polémique autour de ce mot emmerdé, remassifiait un peu les troupes. Après, sur la sémantique pure, moi, je dirais que c'est un casse-toi pauvre con réussi, puisque donc vous vous souvenez du casse-toi pauvre con de Nicolas Sarkozy qui lui avait fait perdre énormément de points dans les sondages. Là, finalement, Emmanuel Macron, il réussit plutôt bien son coup en termes de communication, puisque il réussit à franchir le mur du son. Dans une période de pandémie, aucun propos n'est facilement audible. On n'écoute plus personne. Et donc, il y a une forme de façon de faire qui est de faire une petite phrase choquante qui marque les esprits et qui, tout d'un coup, rassemble un peu l'attention auprès de vous. Et donc, si on regarde les sondages, il y a le sondage qui a été effectué et Emmanuel Macron reste, augmente un tout petit peu dans les intentions de vote. Et finalement, sur le fond, les Français sont assez d'accord avec ce qu'il a dit. Enfin, une majorité de Français est assez d'accord, même si sur la forme, voilà, elle est discutée. Mais encore une fois, ça fonctionne puisqu'il revient au centre du jeu.
Édouard Dorian Cipel, même question, même punition.
D'abord, je voudrais dire que je m'insurge avec vous, cher Pierre, quand on voit que des journalistes en France aujourd'hui ne peuvent pas mener leur travail sur le terrain en paix et en sécurité. Je suis né dans une dictature militaire au Brésil où la presse n'était pas libre. Et même opprimé, comme dans tout régime dictatorial. Et ce qui est incompréhensible et totalement inconstant de la part de ces gens qui manifestent, c'est leur droit par ailleurs, même si c'est assez irresponsable en période de Covid, en ne respectant pas les gestes barrières. Ce qui est d'autant plus incompréhensible de la part de ces gens aujourd'hui qui agressent les journalistes ou qui les menacent sur le terrain, c'est que les journalistes et la presse devraient être leurs premiers alliés. Si ces gens ont des messages à faire passer,
on leur donne la parole.
Il faut qu'ils se servent des moyens de communication et d'expression, de la médiation des médias. C'est la base et c'est le principe même de la démocratie. Aucune violence n'est tolérable, aucune agression n'est tolérable et la presse a le droit de faire son travail partout. Les journalistes aujourd'hui peuvent faire leur travail assez librement, y compris sur des terrains de guerre. Et aujourd'hui, ils ne pourraient pas le faire en France parce qu'il y a des gens excités. Non. Donc ça, il faut le condamner et c'est la première des choses que je voudrais dire. Ensuite, est-ce que vous souhaitez une analyse politique, une analyse morale ou des éléments de bienséance bourgeoise ?
C'est à vous de faire le choix, mon cher Eduardo.
J'ai quelque peu de qualifications pour vous parler politique. Sur le plan politique, le coup est plutôt joli d'Emmanuel Macron. C'est un bon coup, il est efficace et assez meurtrier pour tous ses ennemis politiques ou ses adversaires politiques. Disons adversaires parce qu'en politique, dans une démocratie, il ne doit pas y avoir d'ennemis. Pourquoi ? Parce que il fait un calcul. Moi, je suis joueur de football. Le style, l'élégance, c'est génial. Mais parfois aussi, on marque des buts avec le ventre. Il y a but et à la fin, on gagne. Le candidat Emmanuel Macron, parce que je ne doute pas qu'il sera candidat, il est président, mais c'est un acteur politique comme un autre. Un peu au-dessus des autres, il y a sans doute un langage présidentiel. Et il y a surtout un langage politique pour essayer de convaincre, de consolider son socle, ce qu'il a fait par ses déclarations d'une part. Il l'élargit d'autre part de manière très significative, et je vais vous dire aussi ce que je pense, de manière mais tout à fait objective par rapport à la situation. Je pense qu'aussi, il dit de manière assez soft par ailleurs, ce que une grande majorité de Français pensent de manière beaucoup plus dure que ce qu'il a pu exprimer. Donc d'un point de vue strictement politique et électoral, je considère que ce qu'a dit le président de la République est très efficace et que nous constaterons dans les semaines qui viennent. D'ailleurs, les premiers sondages le montrent. Moi, je ne suis pas là pour faire de la morale. Et en plus, le président de la République, il a une position qui est particulière, qui lui permet de se corriger par la suite, de s'expliquer. Et quoi qu'il arrive, il parle là à une grande majorité, au moins relative au premier tour, qui lui permet d'asseoir son leadership et de préparer correctement si jamais et d'aventure il était candidat.
Maxime Yedo.
Alors, j'ai vivement 2023. J'en peux déjà plus de tout ce qu'on est en train d'entendre, rien que dans les trois derniers intervenants. Évidemment que tout le monde est d'accord sur le fait que certains journalistes ne puissent plus exercer leur travail. Je rappelle quand même que ça date pas. On n'a pas, hélas, attendu les gilets jaunes pour que ce soit le cas, et encore moins les antivax. Je rappelle que même pour faire des enquêtes, maintenant dans des journaux, il y a des difficultés. Parenthèse fermée. Maintenant, quand tout le monde est en train de se féliciter, en quelque sorte, que ce soit un coup de poker réussi de la part d'Emmanuel Macron, j'ai envie de rigoler. Je ne crois même pas qu'on puisse se satisfaire qu'en quelque sorte, un président parle comme ça, qui parle comme ça, qui fasse fuiter une remarque comme ils ont l'habitude de le faire dans le Canard, dans un hebdomadaire, dans un quotidien, en disant qu'il trouve que les vaccinés les emmerdent. Bon, outre l'inélégance, c'est un choix. On le respecte, ça fait polémique, on en parle.
Et surtout que
là,
ce ne sont pas des
citoyens.
Non
seulement il le dit dans une interview qui est écrite, qui est relue, qui est vérifiée, mais c'est les quelques mots avant qui sont choquants. C'est « oui, j'ai très envie d'emmerder les non-vaccinés ». Mais à quel moment déjà, ce qu'a envie Emmanuel Macron, c'est peut-être important, mais on s'en fiche. Un président de la République n'est pas là pour dire ce dont il a envie, ce dont il n'a pas envie.
Aurélie Takilin-Vodadi, c'est le langage oral, c'est-à-dire qu'il répond à une question qui lui est posée.
Et ensuite, quand il dit « j'ai très envie ».
C'est pas un discours officiel.
Oui, heureusement, il manquerait plus que ça. Et ensuite, quand il dit « j'ai très envie », c'est encore plus grave. C'est encore plus grave parce qu'on est en train, en quelque sorte, dans ce pays, de se féliciter de trouver dans les 8 et quelques pourcents de la population qui ne sont pas vaccinés, un bouc émissaire idéal. C'est-à-dire que j'entends maintenant dans le langage de la Macronie, ah oui, mais regardez, c'est les non-vaccinés qui bloquent les hôpitaux, c'est les non-vaccinés...
Mais c'est pas une réalité, Maxime ?
Non, mais alors, on a eu les chiffres, non, mais c'est très intéressant ça, quand on dit oui, il y a 90%...
Non, mais je veux bien qu'on
fasse
une bataille.
80.
Non, oui, 80, mais hier, il y a la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et de la statistique, vous savez, la fameuse DRES, là, un acronyme dont on a le secret en France, a dit que les non-vaccinés représentaient 56% des entrées à l'hôpital décembre.
Non, 80%.
Non,
80% selon l'ASFAR. Des non-vaccinés.
Non, 56% des entrées en soins critiques.
Oui.
Donc ça, c'est intéressant. Donc ce n'est pas... Parce que, évidemment, mais c'est une moyenne. Donc évidemment, il y a des services
mais
c'est 80.
Je complète parce que 80, il faut compter ceux qui n'ont pas une vaccination complète.
Bien sûr. Ça
et les non-vaccinés. Voilà.
Bien sûr, exactement. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, et j'irai jusqu'au bout comme ça, quand on dit en réalité que ce sont à cause des non-vaccinés qu'on va certainement fermer les lieux de culture, qu'on va certainement fermer des restaurants, des théâtres, des salles de sport, etc. Non, parce que, pardonnez-moi, le vaccin est très efficace contre les formes graves, c'est pour ça qu'il faut se faire vacciner, tout le monde est autour de cette table, mais ça n'empêche pas la transmission. Donc qu'on utilise alors, avec en plus un langage vulgaire, non. En plus avec
ça n'est pas exactement, ça n'est pas totalement exact.
Non mais non. Ça casse la transmission, sûr, mais ça ne l'empêche
ça pas.
Ça
casse la chaîne
de
contamination.
Bien sûr,
ça
mais
ne l'empêche
ça
pas. À 100%.
Ça ne l'empêche pas. Sincèrement, on connaît combien de personnes autour de nous. On ne va pas faire de la politique ou d'ennui, mais on connaît combien de personnes autour de nous qui ont été triplement vaccinées. J'ai de la famille dans le milieu médical, je sais ce que c'est, et qui ont eu l'Omicron. Donc, vous voyez, ça existe. Maintenant, si on veut continuer et si on veut se satisfaire dans ce pays, en quelque sorte, mettre tous les malheurs du monde sur les 10% de la vaccination, les 8% qui n'est pas encore vacciné, continuons. Et puis, comme ça, dans quelques mois, on aura le droit à une nouvelle séquence télévisuelle d'Emmanuel Macron avec des larmes de crocodile en disant, vous savez, moi je veux rassembler les esprits, je veux apaiser le peuple. On rigole encore.
Edouard Dorian, s'il vous plaît.
Je précise parce que je crois que j'avais été assez clair. À aucun moment je ne parle de satisfaction ou je me satisfais de quoi que ce soit. Je vous fais une analyse froide politique telle qu'il faut la faire. On est en campagne électorale et dans ces circonstances, on pense que c'est joli, que c'est pas bien, qu'un président ne devrait pas dire ça. Je pense que ça n'a aucune espèce d'importance pour les Français. Hein. Tu ne parles pas de moi.
Donc on devrait
pour
pas...
les Français en matière d'expression politique.
On ne devrait
politique.
Pas s'émouvoir.
Mais chacun fait ce qu'il veut. On est dans une démocratie. Très bien. Et je vais vous dire une chose très simple. Les Français jugeront au moment de l'élection présidentielle. Et moi, quand j'observe objectivement les effets politiques des déclarations d'Emmanuel Macron, il gagne des points.
On est relax.
Moi, je vais revenir juste sur la com. Il y a une grande différence entre le langage oral et le langage écrit. Oui. C'est vrai que normalement, les petites phrases, elles sortent à l'oral. Hein. On parlait tout à l'heure du casse-toi pauvre con, les anciennes petites phrases d'Emmanuel Macron, du il suffit de traverser la rue pour trouver un job, etc.
Valérie Pécresse qui a ressorti le Karcher.
Voilà, en général, c'est à l'oral. Là, ce qui est plus choquant, c'est que c'est à l'écrit. Et donc, écrire, avoir quelque chose comme ça à l'écrit, c'est plus choquant. Après, moi, la question, parce qu'il m'arrive d'avoir affaire à ce genre de situation, est-ce que ça a vraiment été relu et est-ce que vraiment...
C'est l'Élysée quand même. Hein,
est-ce que vraiment... comment dire ils ont pu, l'Élysée a pu empêcher de faire écrire ce mot dans le Parisien. C'est 80% du temps le cas, mais c'est pas toujours le cas. Peut-être. Ouais.
Non, je vous dis, c'est assumé. Le président de la République, d'ailleurs, l'a dit lors de la conférence. Non,
mais il a peut-être ce qu'on veut dire, je pense que, ce que veut dire Madame Klein, c'est que c'est peut-être assumé parce que ça a été.
Mais je vais même vous faire une confidence. Je pense que c'est non seulement assumé, comme au préalable, c'est calculé parce qu'ils ont les enquêtes qualitatives. Ils entendent donc ce que disent les Français, qui est d'une radicalité beaucoup plus dure que ce qu'a pu dire le président.
Et lui, il a choisi ça. Français,
le président, il l'a choisi clairement, parce qu'il sera bientôt probablement candidat. Il a choisi tout simplement le bloc majoritaire qui lui permettrait d'être élu et réélu. Et y compris un bloc relatif au premier tour. Je pense que c'est un calcul politique, parce que le moment est de la pure politique, l'élection présidentielle.
Qu'est-ce que vous voulez dire, Maxime ?
Non, je disais juste que l'élément de langage qui veut dire oui, mais regardez, c'est formidable, parce qu'on a un président qui dit ce que les Français pensent. Oui, on s'en fout, une fois de plus, pardonnez-moi, le but du président de la République n'est pas d'être le porte-parole des Français.
Vous êtes dans l'idée.
Mais vous qui êtes dans cette formidable analyse froide et visiblement sacro-sainte de ce qui est en train de se passer, vous oubliez que...
Il n'y a pas de sacro-saint, c'est froid et objectif, tel que
justement, en étant froid et objectif, vous oubliez légèrement de dire que vous, qui venez de la gauche, ça devrait vous effrayer en priorité, que le calcul un peu cynique d'Emmanuel Macron, ça va faire monter, et c'est en train de faire monter le bloc le plus radical, c'est-à-dire l'extrême droite. Vous serez dans ce même studio en disant « Oh là là, mon Dieu, mais quelle horreur ! À quand le Front Républicain ? À quand le Front Républicain ?» Alors qu'on aura tenu ce genre de promo.
Vous ne m'entendez pas parler comme ça. Et rappelons, moi qui suis de gauche, ce que François Mitterrand avait fait en 1988. Les bandes, les factions... Les clans et les partis qui veulent tout. C'était d'une violence inouïe. Vous avez oublié la violence de la campagne de 2017. Là, je pense que franchement, on est dans des mots un peu familiers, mais auxquels les Français sont habitués et sur lesquels ils ne se font aucune illusion. Ce qu'il compte, c'est le message qu'adresse le président de la République, et constate qu'il choisit un bloc qui est très majoritaire et qui va lui être, je crois, tout à fait utile pour l'élection présidentielle. Est-ce que ça me plaît ou ça ne me plaît pas ? Ce n'est pas le sujet.
Moi, ce que je voudrais dire, et on peut se faire plaisir, parler pendant plus d'une semaine des propos du président, mais moi, je voudrais aussi...
Resté sur le samedi et sur la manifestation des anti-vax. On va y venir.
Je voulais dire, à travers cette manifestation aussi anti-vax, anti-pass, il faut quand même dénoncer ce front Philippot, Dupont-Aignan, Mélenchon, Marine Le Pen, qui sont des mouvements anti-vax, qui font de la politique politicienne sur la santé des Français. Et encore une fois, ils portent une responsabilité. Ils font de la désinformation toute la journée, des fake news. Et après, on le voit bien, alors, les méfaits que ça provoque. Regardez, les frères Bogdanov qui sont décédés, le député José Évrard, député de Debout la France, qui est décédé.
Plein de Français.
Bien sûr, Eduardo, vous disiez.
Qu'on voit à la télévision, c'est d'une tristesse. Il y en a qui survivent et qui passent très près de la mort, on en a entendu plein.
Moi, je pense que c'est important de redire un peu les choses sur l'hôpital. À l'hôpital, c'est une pandémie de non-vaccinés. Je pense qu'il faut dire les choses clairement. Moi, j'ai été dans un hôpital, rive de Seine, sur mon territoire. Je veux dire, aller dans les services.
Comment ça s'est passé justement dans cet hôpital ?
C'est des non-vaccinés. Moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils n'en peuvent plus. Alors, ils soignent tout le monde.
Qui n'en peut plus ? Le personnel soignant ?
Bien sûr. Oui. Bien sûr que le personnel soutenant.
Oui, mais je veux dire,
et encore une fois,
on citait François Mitterrand, personne n'a le monopole du cœur ici. Je veux dire, quand on dit oui, allez dans les services, mais qu'est-ce que
non, mais la liberté en société, Maxime, la liberté en société où vous ne devez rien à personne, ça n'existe pas. Et ce n'est pas la liberté, c'est l'irresponsabilité, c'est l'égoïsme.
J'adore cette version.
Mais bien sûr.
Mais j'adore cette version du droit.
Parler de
le monopole d'Emmanuel Macron de faire croire que nous sommes dans une société de devoirs. Mais la société de devoir, ça s'appelle l'ancien régime. Donc moi, je veux bien qu'on réhabilite certaines choses, mais que vous voulez ou non, dans la Constitution, ici en France, et notamment depuis 1789, on peut aussi faire un cours de droit constitutionnel, c'est avant tout des droits que nous avons.
Oui, et le premier des droits, c'est de respecter le droit.
Bien sûr.
Oui, et donc vous avez vu dans le droit, puisque vous adorez le citer, vous avez vu une obligation vaccinale dans ce pays ?
Donc, c'est-à-dire ça ne fonctionne pas l'obligation vaccinale, Maxime.
Oui, j'ai vu une obligation vaccinale détournée.
Ça ne fonctionne pas l'obligation vaccinale dans les trois pays.
Donc on punit des gens qui respectent. Donc on punit des gens qui respectent.
Une pause. Une pause, les amis. Allez, relax. C'est samedi soir. Vous êtes sur Europe 1. On va faire descendre la pression et on va quand même parler des anti-vax. On revient dans un instant.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Entouré ce soir d'Aurélie Taquilin, conseillère régionale pour l'Île-de-France, pour La République En Marche, Marie-Virginie Klein, conseillère en communication, le journaliste Maxime Yedo et Eduardo Riancipel, membre du conseil national du PS. Les anti-vax sont manifestés aujourd'hui, plusieurs cortèges dans Paris, 6 cortèges au total, avec différents témoignages. Il y avait même des gens totalement vaccinés qui ont rejoint les anti-vax, comme cette dame.
Pour la vulgarité et de cet homme odieux qui est un employé de la France. Donc, moi, je peux lui dire que je l'emmerde à pied, à cheval et en voiture. Je suis vaccinée 3 fois et mes amis restent des gens non vaccinés. Peu importe, je ne veux pas de division aujourd'hui parmi la France. J'ai 64 ans et je ne me laisse pas faire.
Marie-Virginie Klein, vous donnez une note de 0 à 20 sur la sémantique employée par cette dame. Elle est bien briefée.
Des meilleures, hein. On peut dire qu'Emmanuel Macron a libéré une grosse libération de la parole là, sur votre antenne. Non, ce qui me marque beaucoup, moi, c'est à quel point la tonalité a changé de ces manifestations. C'est-à-dire que c'était au départ, avant en tout cas cette remarque d'Emmanuel Macron, c'était des manifestations anti-politiques sanitaires menées par le gouvernement. Et maintenant, c'est clairement des manifestations anti-Emmanuel Macron. Et c'est vrai qu'en disant je veux bien emmerder ceux qui ne se vaccinent pas, Emmanuel Macron, il a quand même alimenté cette thèse complotiste qui fait déjà partie des anti-vax, c'est-à-dire qu'ils ont presque une confirmation pour eux, dans leur thèse un peu paranoïaque, de dire on veut arrêter ma liberté, on me veut du mal, on veut me nuire. Et c'est ce qu'on entend à travers les propos de cette dame.
Édouard Dorian-Sipel.
Oui, j'entends, mais encore une fois, je pense que le langage du président de la République est assez secondaire parce que il ne doit être jugé que par la politique et l'efficacité politique. Je veux dire, même Zidane, qui est un très grand joueur élégant, pouvait être malin et mettre des coups un peu vicieux sur le terrain.
Il
était peut-être même plus que ça. Et moi, je me souviens des Champs-Élysées où il y avait Zidane président. Mais au-delà de la boutade, je pense simplement qu'on est dans un moment extrêmement politique et il ne fait aucun doute que le président de la République a cherché à pousser ces gens aussi vers peut-être à faire des erreurs, à montrer peut-être ce qu'ils sont et de cliver effectivement. Je pense qu'il surexcite Zemmour, il surexcite Le Pen, qui d'ailleurs n'a pas tout à fait une attitude excitée après ça. Il pose des problèmes à Valérie Pécresse, il oblige tout le monde à se positionner par rapport à ça, et il oblige tout le monde à choisir son camp, dans un moment politique,
oui, mais
à 4 mois de l'élection présidentielle.
La semaine prochaine, on n'en parlera plus.
Pense que ça aura des effets, et je constate que c'est assez efficace.
Aurélie Taquilin.
Moi, je rejoins, je pense que la thématique importe peu. Moi, je pense ce soir à tous les Français qui sont déprogrammés, qui ont besoin d'être soignés, et leurs opérations sont déprogrammées parce qu'à l'hôpital, c'est des non-vaccinés en majorité. Voilà,
Alors justement, à propos des variants, hier, je vous le disais, j'ai opposé un anti et un pro-vaccin. Beaucoup d'idées reçues sont tombées, notamment sur le fait que le vaccin, non, ça n'est pas un vaccin expérimental, puisque le professeur Bisson a vraiment clairement expliqué qu'on était arrivé à la phase 3 de ce vaccin. Alors comment faire de la pédagogie? Attention à Omicron. Le professeur Yves Bisson, donc, qui est épidémiologiste, sur le côté, c'est bénin, il n'est pas si dangereux que ça. Écoutez, c'est pas si sûr.
On dit Omicron ne donne... Oh, voilà, c'est bénin, ça donne aucun malade. On n'en sait rien. Et on commence à avoir des données sur le fait qu'il y a des cas très graves dus à Omicron. Il est moins grave que...
Ça, c'est très récent, professeur Bisson.
Mais bien sûr, on commence à avoir des données. On lit un peu...
Mais quand vous dites très grave, ça veut dire quoi?
Mais très grave, c'est-à-dire nécessitant une hospitalisation, voire une entrée en réanimation pour oxygénation...
Voilà, donc ça c'est une donnée nouvelle. Et est-ce que, justement, quand on voit les cortèges de la désobéissance civile qui dit il faut enlever les masques, etc., non, j'ai envie de dire gardons les masques.
Certains meetings politiques aussi, dont ceux d'Éric Zemmour, qui ne sont toujours pas avec un pass sanitaire et des masques. Hein.
Et en même temps, si on entend Olivier Véran, on voudrait arriver à une immunité collective, en tout cas sur ce variant Omicron. On entendait des chercheurs, Maxime Yedo, vous qui lisez à peu près toutes les données médicales qui ressortent, en tout cas vous en vantez, donc j'imagine que c'est vrai.
Pas toutes, celles que je lis, je les cite.
Voilà.
C'est tout.
Vous souvenez-vous de ce... chercheur anglais qui disait Omicron, c'est le cadeau de Noël et c'est celui justement qui pourrait nous faire passer à un stade supplémentaire.
Oui, mais quand on a dit ça, et même d'ailleurs les plus négatifs aujourd'hui commencent à avoir un soupçon d'optimisme. Donc chez les médecins qui passent leur temps, à dire qu'il faudrait vivre en confinement, c'est un début d'espoir, oui, ça c'est certain. Ensuite, on a quelques pays qui sont d'habitude précurseurs dans l'épidémie, qui nous autorisent un soupçon, on va dire, de positivisme. C'est-à-dire qu'on a le Danemark, où on a plusieurs semaines d'Omicron, on voit qu'il y a eu très très peu, on va dire, de conséquences sur les hospitalisations. On a eu également Londres, avec un tout petit effet sur les hospitalisations. Je crois qu'on est à entre 3 et 8%, donc c'est très léger. Et en France, finalement, les quelques prévisions qu'on a, même notamment de l'Institut Pasteur et de l'INSERM, c'est en quelque sorte que... En effet, à partir de mi-janvier, on va avoir un impact sur l'hôpital parce que même si on laisse courir le virus, même si tout le monde ne va pas aller en réanimation, le simple fait de voir des gens régulièrement entrer à l'hôpital, etc., ça risque de mettre en périple, on va dire, l'édifice de santé en France. Exactement. Oui, j'ai dit quoi ?
Périple, mais c'est autre chose.
Ça peut être un périple, je suis désolé. On va affronter un virus, ça peut être un périple. Donc c'était un lapsus, très intéressant.
Edouard Dorian, s'il fait.
Je voudrais quand même affirmer qu'il est tout à fait légitime d'imposer des contraintes à l'ensemble de la société dans la situation actuelle, et en particulier pour toutes les personnes qui refusent de se vacciner. J'étais pour la vaccination obligatoire depuis le départ. Elle ne se fera pas parce que nous sommes à 4 mois de l'élection présidentielle
et
tout le monde peut comprendre que le président et le gouvernement ne prendront pas cette décision. Ils ont raté le coche. En revanche, ils font l'obligation vaccinale indirecte en imposant des contraintes. Mais pourquoi les gens qui sont contre le fait de se vacciner nous disent « très bien, nous on a fait un choix et on accepte les mesures du gouvernement, de la société tout entière, parce que nous comprenons très bien, on fait ce choix et on en assume les conséquences ». Vous savez, le plus grand philosophe français du XXe siècle s'appelle Jean-Paul Sartre.
L'un des éléments les plus scolaires de sa philosophie,
c'est la liberté d'une part, dont la conséquence est la responsabilité d'autre part. Si vous voulez être libre, vous êtes responsable. C'est imbattable comme logique, et lisez-le si vous le voulez, on l'apprend en terminale. Moi, je crois qu'on pourrait être beaucoup plus apaisé de part et d'autre, à commencer par les antivax. Pourquoi veulent-ils rechercher ce conflit? Vous ne voulez pas vous vacciner, donc pardon, on sait que ça circule, c'est votre choix, puisque intégrité du corps, intégrité de la personne, ça c'est tout à fait compréhensible, c'est un vrai débat de philosophie.
Vous parlez beaucoup de football, vous parlez de tennis aussi? Vous voulez parler de Novak Djokovic?
Vous voyez, pour le président de la République, si vous voulez savoir sur le « je vous emmerde » ou « j'ai envie de vous emmerder », c'est très simple, il y en a qui jouent en fond de cour, il y en a qui jouent à la volée. Voilà, c'est une affaire de style.
Et Djokovic et son vaccin, qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que je crois que ça augmente mon amour du très élégant Roger Federer.
C'est une forme de réponse. Aurélie Taquilin.
Moi, je voulais répondre par rapport à l'obligation vaccinale. C'est un outil, en fait, pour une finalité, c'est-à-dire plus de vaccination possible. Et on voit à l'étranger comment ça se passe, en Italie, il y a l'Autriche également. Ils n'ont pas un taux de vaccination plus important que le nôtre. Et puis, il y a un sujet opérationnel. Comment on fait ? On emprisonne et puis après, on vaccine de force. Enfin, je pense qu'on a eu une bonne stratégie là-dessus, à travers le pass sanitaire, à travers les tests payants, et demain, le pass vaccinal. Et là encore, il faut aller très vite. Il sera examiné au Sénat la semaine prochaine. Puis nous espérons une adoption
avec des nuits
vers
blanches,
le 15 janvier.
Sauf si on peut se rappeler qu'on fait, j'ai des enfants à l'école.
Comment ?
J'ai des enfants à l'école. Je voudrais quand même saluer toute la société française. Je voudrais quand même saluer toute la société française. Je veux dire, quand même, les efforts que fait tout le monde pour maintenir la société active, pour éviter de revenir quand même au premier confinement où on était dans un enfermement. Parce qu'il n'y avait pas de vaccin. Il n'y avait pas de vaccin.
Et vous avez des antivax qui aujourd'hui sont antivax, qui à l'époque réclamaient le vaccin. Vous avez ce genre.
Oui, il y a tout. Il y a toutes les incohérences pour faire un monde. Mais moi, j'ai envie de saluer la société française, qui est une société très robuste. On peut toujours faire mieux. Moi, j'ai été très dur sur certains points avec le pouvoir, le gouvernement et le président de la République. Mais force est de constater que les choses fonctionnent quand même. On a des vaccins. Moi, je suis allé l'autre jour faire des tests avec mon fils parce qu'il y avait un gamin à l'école dans sa classe qui avait été malheureusement contaminé.
Et vous avez fait une heure de queue devant la pharmacie.
Non, même pas. Même pas, on est en France, quel pays ? Mais quel pays on fait les choses dans la journée même ? Franchement.
Attendez, j'arrête deux secondes, arrêt sur image, arrêt sur son. Il y a des autotests qui arrivent, vient de nous dire Aurélie Taquina.
Plus 10 millions la semaine prochaine qui vont arriver dans les pharmacies et puis les autotests sont vendus
aussi.
Pourquoi
la semaine prochaine ?
Dans la grande distribution.
Pourquoi il y a deux semaines ?
Parce qu'on constate que dans certains territoires, pas à Courbevoie, je peux vous dire, les pharmacies à Courbevoie ont des autotests, je vous le dis. Mais dans certains territoires, effectivement...
Bon, traverser la Seine, vous allez dans une commune en face de Courbevoie, vous verrez qu'il n'y en a pas.
Où je pense que le pouvoir peut faire plus. Avec l'ensemble de la société et des pouvoirs publics locaux, c'est de rapprocher des gens la possibilité de se vacciner. Je suis sûr qu'on peut réduire ces 5 millions de non-vaccinés qui ne sont pas des anti-vax, en les rapprochant dans les quartiers populaires, dans les territoires ruraux, etc., en allant vers la proximité. Marie, c'est aussi simple que ça.
Marie-Virginie Klein, la reine des mots, vous qui manipulez les mots, si j'ose dire, est-ce qu'on peut encore, à ce stade, faire de la pédagogie ?
J'ai l'impression que on ne peut pas faire grand-chose de plus que ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Et je trouve que là, la pédagogie, elle est plutôt en train de se transformer vers la désignation de boucs émissaires. Et que les boucs émissaires qui sont indirectement désignés à travers l'interview du Parisien par Emmanuel Macron, ce sont les antivax. Donc là, on n'est plus dans la pédagogie. On est dans une construction de monter un peu un camp contre l'autre.
Je suis d'accord. C'est ce que je vous disais depuis le début. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. J'essaye d'être disciple du grand Machiavel autant que je peux. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir lire les choses aussi avec cette réalité de la réelle politique des rapports de force. C'est une bataille politique et électorale dans laquelle est entré Emmanuel Macron avec toute la puissance jupitérienne de la fonction présidentielle que lui confère sa position. Et c'est joli, c'est pas joli. Et je constate simplement que c'est assez efficace et assez assassin politiques.
Vous êtes disciple de qui, vous ?
Pas de Machiavel, déjà, et encore moins de Jean-Paul Sartre, parce que je suis de l'autre bord.
Grand républicain.
Je suis de l'autre bord, parce que je suis plus du côté de Camus. Mais passons.
Mais moi aussi. Et même de Raymond Aron.
On va pas tous les citer, c'est pas la Pléiade ici. Merci.
Pour revenir ils y sont pas tous d'ailleurs. Omicron, un des exemples, un des pays. On va dire pas si lointain qui
cela
qui
dit, ils sont tous exprimés au micro d'Europe numéro 1 à l'époque. Pardon, j'arrête de vous couper.
Je vous en prie, c'est de la censure. Au secours. Non, mais à l'époque, si vous voulez, on disait tous qu'Israël était un pays sur lequel on pouvait s'appuyer. Aujourd'hui, Israël, qui a toujours été très strict, il y a plusieurs allègements qui nous laissent espérer. Ils ont arrêté le contact, on va dire le tracing par GPS. Ils assument le fait de laisser beaucoup plus circuler le virus. Ils ont rouvert les frontières aux vaccinés. Donc ça, c'est un premier espoir. Ensuite,
sur le thème de la liberté, vous
mais quand on parlait d'Omicron, des antipasses, des antivax, je reprenais, donc ça c'est pour le côté Omicron. La deuxième chose, on a quand même tendance un peu dans ce pays ou dans les débats à confondre les antivax et les antipasses. Je pense que c'est pas du tout la même chose.
Ça c'est tout à fait vrai.
Là maintenant vous avez un pass vaccinale, donc oui. Ça revient au même.
C'est corrélé quand tout. Même. Bah non, mais regardez,
il y en a qui peuvent être contre le principe d'un pass, etc.
Ils sont pas contre le vaccin, ils sont tout à fait vaccinés. Il y a des pseudo-philosophes dans ce pays qui font encore, c'est enchanté, Maxime Liédot, mais il y a encore des gens qui font semblant de ne pas comprendre la différence entre les anti-pass et les anti-vax. Quelqu'un qui refuse de se faire vacciner, il refuse de se faire vacciner, on n'en parle plus.
Oui.
À titre personnel, je suis triplement vacciné et j'ai des problème, en effet, j'ai des problèmes avec la conception du pass sanitaire ou désormais vaccinal.
C'est tout à fait rendable.
L'idée qu'on est en train d'instituer une sorte de nouvelle façon de concevoir la citoyenneté à travers un pass vaccinal, ça me gêne beaucoup.
Donc je suis citoyen, j'ai un pass vaccinal, j'en ai pas.
En quelque sorte, ceux qui n'en ont pas ne font pas partie du camp de la raison. Ce sont, comme le disait très bien ma voisine de droite, des boucs émissaires, ça me gêne beaucoup. Et la façon dont on est en train, si vous voulez, de fonctionner d'un point de vue des libertés publiques ou même dans la bouche du président, rappelez-vous de la deuxième phrase qui a beaucoup moins choqué, ça m'a étonné, de dire que, en quelque sorte, les citoyens, celui qui est irresponsable n'est plus un citoyen. Ce fonctionnement-là est absurde et ça s'inscrit, si vous voulez, dans toute cette logique où on n'est plus dans un état de droit, nous sommes dans un état de devoir. Nous sommes plus dans un état de droit, nous sommes plus dans un
Pourquoi
état de droit, nous sommes... Ouais, pas parce que je fais de l'ironie, donc je me dis si je change de voix tout de suite, on écoute un peu plus. Mais on n'est plus non plus dans un état, on va dire, de droit totalement normal, on est dans un état d'exception, on est dans un état d'urgence. Et de plus en plus, l'état d'urgence est en train de se transformer en état de vigilance ou même en société de vigilance, comme le prône Emmanuel Macron. Donc je pense que c'est deux distinctions fondamentales à faire si on ne veut pas caricaturer.
Réponse de la majorité.
Mais Maxime, nous n'avons jamais été des adorateurs du pass. On le suspendra dès qu'on le pourra. C'est un mal nécessaire pendant que l'épidémie circule pour casser les chaînes de contamination.
Je vous crois
et
infiniment.
Encore une fois, Maxime, les électeurs trancheront. Moi, oui, je crois aux élections. Beaucoup, j'en ai fait, je me suis présentée.
Bah c'est bien,
les
ça électeurs... veut dire que vous croyez à la démocratie.
Non, mais les électeurs trancheront. Je veux dire, moi, je ne partage pas ce que vous disiez. Je pense que la citoyenneté, c'est un ensemble de devoirs avant les droits. Encore une fois, on ne peut pas tout faire n'importe comment.
Ça, c'est quand même assez compliqué. Non, mais je vous crois totalement sur l'idée qu'éventuellement cet outil sera, on va dire, mis aux oubliettes dès que l'épidémie ne le nécessitera plus. Ça, je l'entends. Seulement, tous les exemples passés nous montrent l'inverse. C'est-à-dire que, prenons le terrorisme, qui est un des exemples en France où on a mis l'état d'urgence un peu partout. On a dit, mais regardez, l'état d'urgence, ce n'est pas grave. Ça va durer que quelques semaines parce que c'est pour lutter contre le terrorisme. Quand les attentats, il y a eu une vague, on va dire entre 2015 et 2017, se sont terminés, on a quand même mis dans l'état de droit, dans le droit commun, des mesures qui étaient dans l'état d'urgence terrorisme. Et tous les avocats des libertés, notamment fondamentales, des gens brillants qui sont désormais académiciens comme François Suron, le démontrent parfaitement. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que la façon déjà dont on est en train de justifier certaines mesures dans la bouche d'Olivier Véran à l'Assemblée nationale, dans la bouche de Jean Castex, et la façon dont on est passé de jamais dans notre belle société, dans notre belle démocratie, dans notre beau pays, nous instaurerons un pass vaccinal, un pass sanitaire, parce que ça signifierait une société de vitesse. En quelques mois, la façon dont on est passé de cet idéal à aujourd'hui l'évidence incarnée que devrait être aujourd'hui le pass vaccinal, ça pose un problème. Donc quand on m'affirme qu'il disparaîtra, j'ose vous croire, croyez-moi, mais j'ai mis quelques prudences.
Maxime, j'entends tout ce que vous dites, mais il n'y a pas d'alternative au pass aujourd'hui. L'alternative, sinon, c'est le confinement. Quoi.
Donc,
il y a un
vaccinale.
An, ce que disait Eduardo, nous avions nos lieux culturels fermés, nos restaurants fermés. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même dire les choses. Se faire vacciner, c'est se protéger, protéger les autres, penser aux soignants qui sont épuisés, et puis à votre bistrot en bas de chez vous, pour qu'il continue à rester ouvert. Donc, après, voilà.
Ou on peut plus être debout dans le resto.
Oui, et puis tous les gens, les gens me reconnaissent. Je vais dans les bistrots boire mon petit café comme tout le monde, parfois d'autres choses, mais avec modération.
Mais ça, c'est votre problème.
Ça, c'est la vie de chacun.
Comme l'a dit Emmanuel Macron.
C'est comme les envies d'Emmanuel Macron.
Ouais, mais moi, je suis un beau Français très assimilé par ailleurs, et naturalisé. Moi, j'ai pas peur de dire que je suis assimilé. Intégration, assimilation, je vois pas de différence. Vous voyez, d'abord, première chose que j'ai assimilée, c'est la langue française, c'est comme ça. Voilà. Et en tout cas, j'ai envie de dire que j'entends les patrons de bar. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ils sont très inquiets. Ils me demandent, mais monsieur le député, bon, parce que je suis ancien député, donc qu'est-ce qui va nous arriver là? Ils pensent que
le CV, en fait, on a un CV.
Je sais pas ce qui va arriver, mais les gens sont inquiets. Et moi, je peux vous dire que l'un des patrons d'un bistrot que je fréquente pour mon petit café, il est inquiet. Il a constaté, il me dit, bah voilà, les parents d'élèves, c'est la moitié maintenant qui vient le matin. Les gens, parce que les gens se protègent, ils viennent moins, ils ont peur, etc. Et c'est tout à fait compréhensible. Alors, moi, j'entends tout ce débat.
Et je l'ai eu quand j'étais député, justement sur les lois contre le terrorisme. Évidemment que ce sont les lois d'exception et que vous avez raison, cher Maxime, toute la société doit être vigilante pour que précisément cela ne s'installe pas dans la durée de manière définitive. Et ça sera pareil pour le pass. Mais je vais vous dire une chose, hein. La démocratie, elle appartient à tout le monde. Soit les citoyens s'en occupent, soit d'autres s'en occupent pour eux.
Je vous avais dit que l'ambiance serait plus relaxe, on est samedi soir. Et les débats continuent. Tiens, dans un instant, on vous parle d'Élise. Elle voulait qu'on l'appelle Élise. C'est pas ça. À tout de suite.